Bonjour à ceux que je n'ai pas salués encore. Je vous propose de commencer par une lecture. Alors, dans cette Bible-là, c'est à la page 440, c'est dans Ecclésiaste chapitre 11, au verset 1 à 8. Moi, je vais lire dans une autre traduction, dans la traduction Nouvelle Seconde. Jette ton pain à la surface de l'eau, car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8 personnes, car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Quand les nuages sont gorgés d'eau, ils la déversent sur la terre. Si un arbre tombe, que ce soit au sud ou au nord, il reste là où il est tombé. Celui qui observe le vent ne sèmera pas, et celui qui regarde les nuages ne moissonnera pas. Tu ne sais pas quel parcours le vent suit, ni comment les os se forment dans le ventre de la femme enceinte. De même, tu ne connais pas l'œuvre de Dieu, l'auteur de tout ce qui existe. Sème tes graines dès le matin, et le soir ne laisse pas ta main en repos, car tu ne sais pas ce qui réussira. Est-ce que ce sera ceci ou cela? Est-ce que l'un et l'autre seront également bons? La lumière est douce et il est agréable pour les yeux de voir le soleil. Si donc un homme vit longtemps, qu'il se réjouisse pendant toutes ces années, tout en se souvenant des jours sombres, car ils seront nombreux. Tout ce qui arrive n'est que fumée. Alors, il faut trouver un titre pour les prédications. Je ne suis pas très fort à ce jeu-là. Alors celle-là, je l'ai appelée Allez, je me lance. Alors, j'ai hésité avec nourrir les canards, parce qu'il est question de. Ah, pardon. Avec nourrir les canards, jette le pain à la surface de l'eau. Vous allez voir que c'est pas ça en fait. Alors, allez, je me lance. Donc là, on voit que l'Ecclésiaste nous encourage à agir, à nous lancer. Lance ton pain à la surface de l'eau. Alors, j'ai une Bible, la Bible du Légionnaire en français fondamental, est traduit même carrément directement. N'hésite pas à prendre des risques. Donc là, il n'y a plus de pain, il n'y a plus. Voilà. Vous savez à quoi ça me fait penser, cette image du pain qu'on jette à la surface de l'eau? Moi, ça me fait penser au pêcheur, vous savez, qui va appâter le poisson avant de jeter sa ligne. Et en fait, il y a un peu de ça. Parce que le message peut être entendu comme provoque ton destin et si tu veux récolter des fruits. Enfin, ou là, c'est des poissons. Enfin, bon, c'est récolter, quoi. Voilà. Donc, dès le matin, sème ton grain et le soir, essaye encore autre chose. Ça, c'est le verset 6. Alors pourtant, Salomon, l'Ecclésiaste, il reconnaît qu'il y a beaucoup de raisons de rien commencer, en fait, de pas se lancer, de rien risquer. Alors ces raisons, on peut les énumérer, on peut les retrouver dans le texte. Tout d'abord, il y a l'incertitude. Il nous dit, tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Et il y a donc cette tentation de rester pétrifié par la peur, et on ne fait plus rien, on tente plus rien. Dans ma Bible du Légionnaire, il est écrit le paysan qui a peur du vent ne sème pas et celui qui a peur de la pluie ne récolte pas. Ça, c'est une bonne image, hein, d'avoir peur du vent et de se dire que c'est pas la peine de semer ou d'avoir peur de la pluie et de dire que on peut pas moissonner. Mais ces versets-là, ils mettent le doigt sur cette peur en nous. Et pour quelle raison, d'après vous? À mon avis, c'est parce que Dieu veut que nous soyons capables d'identifier cette peur en nous et pour mieux arriver à la dépasser, justement. Alors la deuxième raison de ne rien faire qui est évoquée dans le passage, c'est finalement le désespoir qu'on peut ressentir face à la lourdeur du monde et comparé à nos propres limites. Voilà, ça c'est le. Il est écrit, si un arbre est tombé au sud ou au nord, il restera à la place où il est tombé. Et c'est pas avec nos petites mains qu'on va le déplacer ou qu'on va le replanter pour qu'il donne à nouveau du fruit plus tard. On pourrait être découragé aussi et rendu immobile par nos limites. Et justement, au travers de ce passage, Dieu nous invite à découvrir que nous avons une force que nous ne soupçonnions pas et cette force qu'il nous donne, c'est vraiment un encouragement. Alors la troisième raison de ne rien faire, c'est notre égoïsme. Elle est moins clairement dénoncée dans le passage, mais ça, tout le monde peut voir en lui que ça peut être une bonne raison de rien faire. Voilà, j'ai mon pain, je le garde pour moi. Voilà. Donc, et l'Ecclésiaste, il nous aide aussi à dépasser cette peur de manquer, et il nous dit, lance ton pain, tu le retrouveras. Alors, aujourd'hui, peut-être qu'on dirait, tu verras si ça vaut le coup, ou quelque chose comme ça. Donc, trois vraies raisons de rien faire, donc. Mais vu sous un autre angle, on va voir qu'il y a autant de bonnes raisons d'agir. C'est ce que dit l'Ecclésiaste dans son témoignage, qui est une sagesse intemporelle, une sagesse divine. Lance ton pain à la surface des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. C'est le premier verset. Alors certains y voient un appel à la générosité. En partageant avec un pauvre aujourd'hui, peut-être que demain, cette personne sera devenue riche. Elle se souviendra de cette bouchée de pain qu'elle aura reçue 30 ans plus tôt et elle te sauvera d'une situation désespérée. C'est possible. Mais c'est quand même peu probable. Et alors, de toute façon, vous aurez sûrement noté par vous-même que ce n'est pas une motivation très glorieuse pour être généreux. On peut peut-être même dire que c'est un calcul qui est un peu mesquin et assez égoïste. Et je ne pense pas que ce soit l'enseignement principal qui soit le plus profond et le plus inspiré qu'on puisse tirer de ces versets. Alors d'autres voient dans ce texte un appel à la générosité un peu plus générale, un peu plus large. Ça ferait quelque chose comme en donnant mon pain aujourd'hui à un affamé, je fais un peu de bien à l'humanité et du coup on en profitera tous. C'est déjà un peu plus vraisemblable. Et donc là, on voit que cette motivation, elle est un peu moins égoïste, elle s'adresse vraiment à la personne en tant que membre de l'humanité. Mais ça ne correspond pas exactement à ce que dit le texte, parce que le texte ne dit pas de donner aux pauvres, il dit de jeter à la surface de l'eau. Donc il y a peut-être quelque chose à chercher plus loin que ce sage conseil moral, très valable au demeurant. On peut voir ce conseil comme proposant de donner notre pain matériel pour trouver le pain spirituel. L'idée, c'est de nous libérer de notre trop grand attachement aux choses matérielles et à la vie matérielle pour s'attacher à des choses plus fondamentales. Alors, dans ce cas, donner devient une sorte d'exercice spirituel. On en tire là aussi un bénéfice personnel direct, parce que finalement, on a remporté une victoire sur nous-mêmes, une victoire intérieure, en mettant en ordre notre façon d'être. Alors cette lecture, elle est bien cohérente avec l'enseignement de Jésus, hein, avec le célèbre l'humain ne vivra pas de pain seulement, et avec chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus. Et donc le bénéfice, il est immense parce qu'il permet de dépasser les trois raisons de se décourager qu'on citait tout à l'heure et que cite l'Ecclésiaste. Donc on donne même si on ne sait pas de quoi demain sera fait. On donne même si nos moyens sont limités et que la tâche est gigantesque. Et on donne même si c'est à moi. Je ne suis plus votre trésorier, donc je suis d'autant plus libre de vous donner ce message. Alors, donner, finalement, donc, nous libère d'une conception de la vie qui nous paralyse et qui nous tue. C'est cette fameuse conception matérialiste là, qu'on évoque. Pour les raisons suivantes, parce que cette conception matérialiste, elle est désespérante. Parce que finalement, on sait qu'on n'a aucun espoir d'emmener avec nous dans la tombe quoi que ce soit. Ensuite, cette conception, elle est assez effrayante, parce que on ne sait pas, comme dit l'Ecclésiaste, quelle catastrophe peut arriver demain. Alors peut-être que demain, on sera comme nos frères chrétiens d'Orient, qui hier avaient une bonne vie dans une maison confortable avec piscine, mais il fait chaud là-bas, et qui aujourd'hui sont dans un bateau en caoutchouc en train de pagayer vers l'inconnu. Donc ça, cette conception matérialiste, pour ça, elle fait peur, parce qu'on ne sait pas si matériellement le lendemain sera aussi bien qu'aujourd'hui. Et enfin, cette conception matérialiste, elle nous bloque. Elle nous empêche de prendre des risques, en fait. Elle nous invite pas à faire quoi que ce soit de nos moyens, ni à semer, ni à moissonner, parce que on est paralysé par la peur. Et j'ajoute que ça fait aussi passer à côté des vraies valeurs que sont les qualités de cœur, d'intelligence, de foi et de gratuité. Et j'ajoute que s'ils avaient vécu comme cela, les héros de la Bible, Moïse par exemple, ne se serait pas levé pour sauver son peuple de Pharaon, qui ne serait pas avancé à travers la mer Rouge entre les deux murailles d'eau. On peut parler de David aussi, qui ne se serait pas levé contre Goliath. On peut parler de Jésus, qui serait resté gentiment dans l'atelier de Joseph. On peut parler de Paul, qui n'aurait pas fait demi-tour sur le chemin de Damas. Et on peut parler de François Mitterrand qui ne se serait pas présenté 4 fois de suite aux élections présidentielles. Je vous laisse chercher l'intrus. Voilà. Donc s'ils se sont lancés, tous, c'est qu'ils mettaient leur assurance ailleurs et plus précisément qu'ils la mettaient en Dieu. Enfin, pas François Mitterrand, parce que notoirement, on sait qu'il a gouverné en consultant les astrologues et les oracles. Donc là, bon, vous aurez compris que ça ne s'appliquait pas à lui. Par contre, pour les autres que j'ai cités, c'est justement le fait de mettre leur confiance en Dieu qui leur a inspiré cette façon-là de comprendre la vie et d'agir en conséquence. Alors, à ce stade, il faut préciser, peut-être que vous l'aurez remarqué, que cette conception de la vie ne leur a pas apporté la prospérité, hein. Voilà, comme certaines églises évangéliques le prétendent, en disant à leurs fidèles que plus ils sont généreux et plus ils prient fort et plus ils seront prospères. Donc, il n'est pas du tout question de ça dans la Bible, hein. La foi ne porte pas chance. Il faut être très clair à ce sujet. Dans un tremblement de terre, il y a côte à côte des justes et des croyants et des injustes, des athées qui meurent. Voilà. Et parmi les héros bibliques, on retrouve certains qui se portaient très bien financièrement, hein, Abraham, Jacob, David. Et puis après, il y a des Moïse, Jésus et Paul qui perdent tout financièrement. Mais alors, par contre, croyez-moi, au quotidien, ils ont reçu non seulement le pain terrestre, mais ils ont aussi la nourriture spirituelle. Ils ont eu quelque chose de plus profond, quelque chose qui rend la vie plus belle et qui rend la vie une source de vie pour les autres et qui rend le bonheur possible et qui permet de se relever quand ça va pas et quand on subit des épreuves. Donc on peut lancer notre pain comme un exercice spirituel utile. Et sur ce plan, je voulais vous dire que le bénéfice serait le même si nous jetions à la Loire soit notre pain, soit nos bijoux. Mais alors, dans une perspective chrétienne, il ne peut pas en être question, évidemment, puisque si l'homme ne vit pas de pain seulement, il vit aussi de pain. Et il existe des pauvres qui ne mangent pas assez bien, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux leur donner que jeter à la Loire. Donc, je ne sais pas ce que vous pensez de l'Ecclésiaste. Moi, je trouve que c'est un livre atypique, parce qu'il appelle autant à la raison qu'à la spiritualité, finalement. Et quand au verset 7 qu'on vient de lire, là, on lit La lumière est douce et il est bon pour les yeux de voir le soleil. Ça, c'était pas facile, hein. On peut y voir une référence à deux sortes de lumière, finalement. La première lumière, c'est la lumière spirituelle. La lumière de la foi, de l'espérance, de l'amour, celle que Dieu crée quand il dit avant toute chose que la lumière soit. Hein? On est dans la Genèse au verset 4 ou 5. C'est cette lumière aussi que nous recevons par la foi. Et la seconde lumière, vous allez voir, elle est beaucoup plus pâle, c'est celle de ce monde, c'est celle de L'expérience des générations précédentes qu'on a recueillies, qu'on a traitées, questionnées, enrichies à chaque génération, c'est celle de notre propre intelligence, de la science, de la philosophie et des arts. Et il faut, à mon avis, les deux lumières pour à la fois jeter notre pain, mais pour pas le gaspiller pour autant, pour le transformer en ouverture à Dieu par notre don gratuit, mais aussi pour construire quelque chose de bon. Donc là, il n'est pas vraiment question d'un détachement total du monde, mais plutôt d'un attachement différent, et plutôt d'un attachement à la source du monde. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas non plus un détachement de soi-même, c'est plutôt un attachement à plus que soi-même, plus large, plus profond et plus élevé. Et c'est pas vraiment ne plus avoir, ne plus connaître la peur du tout, parce que ça, ce serait de l'inconscience, mais c'est le fait de ne plus être dirigé par la peur, et c'est d'avoir un esprit d'audace pour Dieu. Ouais, je pense que c'est une des leçons de ce texte, de l'Ecclésiaste. Mais on peut trouver aussi quelque chose de plus original encore, et de plus fin dans ce texte. Et alors pour le comprendre, il faut revenir un peu à la Genèse. Au tout début, en fait, au chapitre 1 et au verset 1 à 6 que je vais vous lire. Cette expression, donc à la surface de l'eau, qu'on a vue dans le passage de l'Ecclésiaste, en fait, c'est une des plus célèbres de la Bible parce qu'elle est dans la Genèse au verset 1, au verset 2. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau, ou à la surface de l'eau dans certaines traductions. Dieu dit qu'il y ait de la lumière, et il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit, et il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Donc, les eaux sont ici un symbole du chaos de l'univers. Et Dieu commence à créer le monde en fait en lançant son esprit à la face du chaos. Et là, finalement, c'est ce que l'Ecclésiaste nous appelle à faire dans ce texte, exactement comme Dieu, ni plus ni moins. Et selon lui, c'est possible, c'est ce qu'il nous conseille en tout cas. Alors, heureusement, il nous donne des conseils un petit peu plus pratiques pour faire ça, si vous vous souvenez. Alors, parfois la Bible nous présente Dieu comme créant avec ses mains, comme un potier qui façonne l'argile. C'est une image qui a des limites parce que finalement l'argile, elle n'a pas vraiment de libre arbitre, elle ne peut pas résister à la pression qui lui est imposée. Par contre, dans le texte de la Genèse, Dieu crée, mais tout en douceur par son souffle, par sa parole. Et on peut résister à un souffle de vent, on peut ne pas écouter une parole, on peut ne pas l'accepter, on peut argumenter, négocier, palabrer, retarder. Voilà, c'est moins violent. Mais c'est quand même le plus souvent par son souffle que Dieu agit, c'est ce qu'on voit dans la Bible en tout cas. Et nous sommes appelés à être à son image. Et comme Dieu, nous sommes face au chaos du monde. Et face à des personnes, à une société qui a son libre arbitre aussi. Et la première réaction, c'est d'être paralysé de peur et de rien faire. Alors donc l'Ecclésiaste nous dit qu'on peut trouver mieux que ça. Et la seconde solution, et là on entre dans le vif du sujet, la seconde solution, c'est d'utiliser sa tête et son travail. Et donc ça, c'est ce qui est écrit. Multiplier les tentatives de bien faire, de semer de différentes façons, à différents endroits, à différents moments. Et ce qui nous est dit, c'est statistiquement, ça finira bien par produire quelque chose. Comme on dit, quand on fait un essai, il y a des fois où ça marche et il y a des fois où on apprend. Et là, l'Ecclésiaste nous dit, soyez des auto-entrepreneurs. Entreprenez dans tous les domaines de votre vie. Le monde nous dit, entreprenez, vous créerez des emplois, vous serez peut-être même un héros. Vous pourrez partir en Suisse après. Et la Bible nous dit, entreprenez pour la gloire et pour le royaume de Dieu. Et si on le fait, si on suit le conseil de l'Ecclésiaste, lancez votre pain à la surface de l'eau. Il nous est plus dit que le succès est promis plutôt que statistiquement, peut-être qu'à un moment ça finira par marcher. C'est plus que statistique. On ne sait pas quand et on ne sait pas comment, mais avec le temps tu le retrouveras. C'est pas peut-être un jour, c'est avec le temps tu le retrouveras. C'est à peu près aussi certain que quand un nuage est plein d'eau, c'est certain qu'à un moment il va pleuvoir et que la terre va être fécondée. On ne sait pas exactement quand et où, mais ça finira par arriver, c'est sûr. Donc face à l'incertitude et malgré nos forces limitées, lance ton pain à la surface des eaux. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, à l'époque de Salomon, et encore même au Moyen-Âge, on pouvait peut-être le prendre au sens littéral, c'est-à-dire qu'on peut s'imaginer que partager avec les pauvres, faire l'aumône, ça pouvait être fait en leur lançant du pain. Alors pour nous, c'est pas à prendre au sens premier, bien évidemment. Parce que jeter du pain au canard, finalement, c'est pas un rite magique qui améliorerait le monde d'une façon ou d'une autre. Peut-être le quotidien des canards, mais je sais pas. Mais le sens figuré du pain, il est assez connu finalement. C'est l'aliment de base par excellence. C'est une image de la source de vie, le pain. Par exemple, la parole de Dieu est comparée à un pain, ou la Bible est comparée à un pain. Le Christ est appelé le pain de vie dans l'évangile de Jean. Et donc, les Chinois doivent jeter leur riz à la face des eaux, et Jésus est leur riz de vie. Blague à part, le pain c'est aussi une image de notre vie éternelle. Tout le processus de fabrication du pain qui est décrit dans la Bible est repris en parabole et en image. Donc c'est le grain semé qui germe, qui grandit, et qui donne un épi. Ça c'est ça peut représenter notre évolution dans toutes nos dimensions physiques, psychiques et spirituelles. Vient ensuite la moisson, qui représente souvent le jugement dernier. Puis le vannage, qui sépare la paille immangeable du bon grain. Alors, ensuite le passage dans la meule, cher à mon cœur, pour faire de la farine. Donc voilà, toutes ces images, c'est souvent pour représenter le jugement de Dieu qu'elles sont utilisées. Dieu qui garde le meilleur de chacun, qui perd pas même une poussière de la farine. Alors enfin, la panification vient la fermentation de l'eau avec du levain, et la cuisson qui donne enfin le pain de vie. Voilà, cette étape, elle a quelque chose de vraiment spécial. C'est Dieu qui permet ça aussi. Et toutes ces étapes, on les retrouve ici dans le texte de l'Ecclésiaste. Il y a semer, il y a la pluie, il y a le soleil qui font pousser, il y a moissonner. On retrouve aussi l'Esprit de Dieu qui est donné comme un chemin de vent et de vie mystérieux. On peut dire que le pain, c'est nous. C'est nous, une fois qu'on a été transformé par Dieu. C'est chacun d'entre nous, une fois façonné et recréé. Une fois que Dieu a mis en nous ses pouvoirs divins, qu'il a mis sa vie, sa pureté, sa puissance, son amour. Qu'est-ce que ça veut dire alors, lancer son pain à la face des eaux? Je pense que ça veut dire donner le meilleur de nous-mêmes, lancer le meilleur de nous-mêmes, et plus que cela, c'est lancer cette part que Dieu a mis en nous. Cette part éternelle qui est vraiment créatrice. Alors il y a un passage un peu obscur, vous allez voir. Ensuite c'est lance ton pain à la surface des eaux, donne-en une part à 7 et aussi à 8. Alors je ne sais pas ce que vous avez dans votre Bible. Certaines traductions précisent qu'il s'agit de personnes. C'est ce qu'il y a apparemment dans cette traduction-là. Il y a d'autres traductions qui reprennent même pas le coup des 7 ou 8. Alors on voit que ça a posé des problèmes même aux théologiens les plus chevronnés, ce verset-là. Alors moi j'ai remarqué que dans les traductions les plus littérales, il est juste écrit donne une portion à 7 et même à 8, sans préciser de 7 ou 8 quoi il peut s'agir. Donc je prétends pas du tout que l'explication que je vais vous proposer est la seule possible ni la bonne. Dans la multitude des jours, le septième et l'huitième, ça évoque quelque chose, ça évoque Dieu qui crée le monde matériel en 6 jours. Et qui donne sa bénédiction à l'aube du septième jour. Le huitième, c'est le jour d'après, c'est le début du nouveau cycle, le recommencement. Donc, est-ce que l'Ecclésiaste ne nous encourage pas à lancer notre pain chaque jour jusqu'au septième et à recommencer le huitième, voilà, comme on l'a fait avant? Et alors, pour la raison suivante, la raison qu'il évoque, c'est donne-en une part à 7 et aussi à 8, car tu ne sais pas quel malheur sera sur la terre. Voilà. Prions. Père, tu connais nos limites et tu sais aussi ce que tu as déposé en nous, ce que tu as mis en nous. Et nous voulons nous lancer, nous voulons travailler pour toi de toutes nos forces, de toute notre foi à rendre ce monde aussi plus juste et meilleur. Et nous voulons donner le meilleur de nous-mêmes. Et nous savons que le meilleur en nous, c'est ce que toi, tu y as mis. Et c'est ce que tu vas encore y mettre. Tu nous l'as donné pour que nous semions. Et c'est ce que nous voulons faire pour toi, Père. Que ton nom soit béni. Amen.
Amen.